Chers amis, bonjour.
Bonjour.
Oui, nous passons la semaine pour jouer à Saint-Valery-en-Caux, sur la côte normande, entre Le Havre et Dieppe, département de Seine-Maritime. C'est la côte d'Albâtre, ici, avec des falaises de craie et de silex et des grèves de galets dans la région. Saint-Valery-en-Caux, c'est une petite ville de 4000 habitants, les Valriquaises et Valriquais. Saint-Valery sans accent, dont le nom viendrait de celui d'un moine du VIe siècle. La localité de Saint-Valery-en-Caux a été détruite très fortement, à 70% par des bombardements de juin 1940. C'était en 1940, en l'occurrence, destruction, donc affrontement, bombardement. Cette bataille de Saint-Valery du 10 au 12 juin 1940, ce fut une bataille qui opposa les Allemands, dirigée par Rommel, à des résistants, ou une résistance, disons plus précisément, des armées françaises et britanniques, et notamment des Écossais, qui étaient encerclés d'abord à Fécamp et puis à Saint-Valery, et qui ont finalement dû capituler. Heureusement, la très belle maison Henri IV a été épargnée par ces bombardements, mais je vous en parlerai de cette maison Henri IV, c'est peut-être l'un des symboles, c'est l'image, peut-être l'une des images les plus connues de cette jolie petite ville normande en pays cauchois, sur la côte, d'où nous jouons toute la semaine pour le plaisir et pour apprendre des choses, c'est ça l'esprit du jeu. Et en tout premier lieu, avec Laurent Liot et Fabien Buissard. Bonjour Laurent.
Bonjour Nicolas.
Vous venez d'un village proche de Saint-Valery, c'est Blosseville-sur-Mer.
Exactement.
C'est le plus beau village du monde, Blosseville-sur-Mer.
Absolument, je ne pouvais pas dire.
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire alors ?
Ah bah, c'est un village rural et qui a la chance d'être à 2,5 km de la mer. Donc on bénéficie à la fois de la, des joies de la mer, de la beauté des paysages des falaises et de la campagne riante et d'une très riche agriculture.
En fait, voilà. La commune s'appelle Blosseville-sur-Mer sans être complètement au bord de la mer.
Absolument. Ouais. Ça a été le cas pour des raisons touristiques, certainement au début du XXe siècle. Et on espère que ça ne sera pas le cas, malheureusement, parce qu'un jour, l'érosion amènera la mer jusque là.
Oui, c'est ça. C'est vrai que les falaises sont crayeuses et fragiles. Vous êtes d'ailleurs très investi dans l'histoire de votre village.
Oui, nous avons créé récemment une association qui s'appelle Blosseville Histoire Vivante pour connaître et découvrir l'histoire du village et surtout la faire partager. Et ce, à l'occasion de travaux de restauration très importants qui vont avoir lieu sur la magnifique église du village qui s'appelle Saint-Martin-Saint-Lézin. Ce programme de restauration très important.
Très coûteux, j'allais dire aussi.
Oui, absolument, parce que malgré beaucoup d'aide la direction des affaires culturelles, de département, de la communauté de communes, il reste encore une charge importante pour la commune, qui est une petite commune. Et il y aura des souscriptions qui seront lancées, et donc j'en profite pour faire un appel à tous ceux qui voudront bien participer et venir visiter cette église merveilleuse.
Très bien, Laurent. Avec grand plaisir. Bonjour, Fabien.
Bonjour, Nicolas.
Vous êtes statisticien, vous venez de la région de Rouen, c'est ça ?
Oui, Bois-Guillaume.
Bois-Guillaume. Quel est votre employeur, puisque vous êtes statisticien ? Vous travaillez pour quel type de structure ?
Pour une association, le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie.
Très bien. Et vos loisirs préférés sont liés à la nature, aux statistiques, à la région rouennaise, à l'histoire, à la planche à voile
Non, planche à voile, non. Non, je passe beaucoup de temps avec mon fils de 7 ans qui
est sur scène d'ailleurs. C'est Raphaël. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Tu ne souffles pas les réponses à ton papa, hein ? D'accord. Et donc oui, beaucoup de temps avec Raphaël.
Beaucoup de temps, beaucoup de sport, de balade, de vélo, tout ça. Et
oui. Voilà. Entendu. Laurent Liot, Fabien Buissard et Raphaël, candidats du jour au jeu des 1000 euros sur France Inter, avec des questions qui sont toutes tirées au sort. Question bleue d'abord, de Claude Nourry à Auzouer en Touraine. Le Vermont, c'est un État américain dont la capitale porte le même nom qu'une ville, une grande ville française, avec une orthographe différente et puis peut-être une prononciation légèrement différente, ça dépend des versions. Mais donc, quel est le nom de cette ville ?
Il y a Montpellier, peut-être ?
Oui, c'est Montpellier, c'est ça. Montpellier ou Montpellier, si on prononce le nom de la ville française. On peut dire les deux, hein, Montpellier ou Montpellier, mais il n'y a qu'un L s'agissant de la capitale du Vermont. Question bleue aussi de Jeanne Vandenbroek à Champagnol dans le Jura. Question postée sur franceinter.fr. Le vélo Solex, vous vous souvenez du Solex ? C'est un cyclomoteur produit en France, qui était produit en France, plus de 7 millions d'exemplaires entre 1946 et 1988. Mais quelle est la particularité, c'est la question que vous pose Jeanne, du moteur du Solex.
Il entraînait directement la roue avant par un galet qui transmettait directement l'énergie à la roue.
Laurent, je sens que vous avez eu un Solex.
Non, mais j'ai eu beaucoup d'amis qui en ont eu.
En effet, c'est la particularité, ou c'était la particularité du Solex, et il y a des amoureux du Solex, je comprends, hein, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est le moteur qui entraîne directement la roue par un système de galets. Vous avez très bien dit les choses, Laurent. Laurent et Fabien jouent avec nous, vous aussi, et vous également à l'écoute de France Inter, donc vous tentez de répondre à cette troisième question bleue d'aujourd'hui, qui nous a été envoyée par Isabelle Lemoine à Aix-les-Bains. Boris Johnson est Premier ministre britannique. D'ailleurs, c'est le 14e Premier ministre britannique de la reine Elisabeth II. À qui a-t-il succédé directement, Boris Johnson ? Donc, qui a précédé Boris Johnson au 10 Downing Street ?
Nous pensons à Theresa May.
C'était Theresa May. Bonne réponse. Question blanche de Dominique Oudy à Morsan-sur-Orge, dans l'Essonne. Comment appelle-t-on l'action qui consiste à coller la toile d'un tableau sur une autre toile pour la renforcer, ou sur un panneau de bois, sur une muraille pour l'y fixer, ou de lisser un plaquage sur son support de manière à chasser toutes les bulles d'air qui pourraient rester prisonnières entre donc le support et le plaquage. Bon, c'est un terme qu'on emploie aussi quand on pose du papier peint également. Alors quel est ce terme qui désigne cette action, disons ?
Nous pensons à marouflage.
C'est le marouflage, exactement. Question blanche également de Marion Hotte à Metz. Quel homme célèbre a laissé au pied de son lit la note suivante avant de mettre fin à ses jours ? Aucun rapport avec Ginsberg. Je rappelle la question. Il faut trouver le nom de cette personnalité qui a laissé au pied de son lit avant de se donner la mort les mots suivants. Aucun rapport avec Ginsberg.
Est-ce que ce serait Romain Gary ?
C'était Romain Gary, oui. Mari de Ginsberg, qui s'était elle-même donné la mort. Et lui s'est suicidé également, mais pour qu'on ne dise pas que c'était lié. Enfin voilà, c'était son souhait, qu'on ne dise pas que sa propre mort était liée à la disparition de Ginsberg. En tout cas, il a laissé ce mot. Aucun rapport avec Ginsberg. Ils avaient été mariés de 1963 à 1970. La question rouge d'aujourd'hui, nous la devons à Martine Mézière de Sens dans Lyon. Marcel Bleustein était né en 1906. Il est le fondateur du groupe Publicis. Il a imaginé beaucoup de slogans qui résonnent encore beaucoup aujourd'hui, comme du pain, du vin, du boursin, pour ne pas citer la marque du fromage. Il est aussi le premier à avoir lancé en France le concept des drugstores. Tout le monde connaît le drugstore Publicis sur les Champs-Élysées à Paris. Mais nous le connaissons, ce monsieur, cette personnalité, sous le nom de Marcel Bleustein Blanchet. Pourquoi, alors c'est la question de notre auditrice Martine que je vous pose, pourquoi le nom Blanchet a-t-il été ajouté à la suite de Bleustein ?
Aucune idée.
Est-ce
que c'est lié à un événement pendant la guerre ?
Oui, c'est ça, c'est ça.
Il a été recueilli par une famille Blanchet ?
Pas recueilli par une famille Blanchet, non.
Oui, il avait un faux papier avec ce nom-là.
Et qu'a-t-il fait pendant la guerre ?
Il a été sauvé ?
Il a été sauvé, mais qu'a-t-il fait directement ?
Oui, il a sauvé des personnes de la déportation.
Il a fait des actions de résistance.
Et donc ?
C'était son nom de résistant.
C'était son nom de résistant.
C'était son nom de résistant, Blanchet. Et il a gardé ce nom. Il l'a adjoint à son nom. Marcel Bleustein Blanchet. En 1939, la guerre déclarée, Marcel Bleustein s'est engagé dans la résistance sous le nom d'emprunt de Blanchet. La guerre terminée, Marcel Bleustein a été autorisé à ajouter son pseudonyme de résistant en 1954 par un décret du gouvernement, alors le gouvernement Mendès-France. Marcel Bleustein Blanchet. Joli parcours pour nos candidats Laurent Liot et Fabien Huissard qui peuvent directement tenter le... C'est Raphaël qui dit à son papa, non, il faut continuer. Tu as envie que ton papa continue, Raphaël ?
Oui.
Et donc, s'il continue, il dit ?
Banco.
Est-ce que son papa, est-ce que vous deux, messieurs, vous dites banco ?
Banco.
Le jeu des 1000 euros. Nicolas Stoufflet.
Question banco de Lou Herbelin à Château-Gontier-sur-Mayenne. Quel est le nom donné à l'odeur caractéristique que l'on retrouve après la pluie. Certaines plantes sécrètent un liquide huileux qui est absorbé par les sols et les roches en période de sécheresse et qui dégage, c'est vrai, on voit bien de quoi il s'agit, cette odeur caractéristique de terre mouillée juste après la pluie, surtout quand la pluie arrive après donc une longue période ou relativement longue période de sécheresse. C'est un mot d'origine anglaise, mais si on remonte plus loin, c'est un mot d'origine grecque qui désigne donc cette odeur particulière du sol et de la pluie après une période de sécheresse.
Donc c'est des plantes qui sécrètent ça.
Oui, ce sont des plantes qui sécrètent un liquide huileux, qui est d'ailleurs le nom du liquide huileux sécrété par certaines plantes.
Peut-être le mucilage ou ce genre de choses.
Origine grecque pour ce mot. Origine grecque. D'une part pierre et d'autre part fluide, disons.
Par le mucilage.
Si je prends le grec, c'est
rhumalte.
Odeur caractéristique que l'on perçoit après la pluie, spécialement après une période de sécheresse.
Je sais pas si vous avez un mot.
Rhumalite.
Une proposition. Non.
On n'a aucune basée sur le grec rhumalite.
Rhumalite, ce n'est pas cela. Je vois qu'une main se lève, au moins une main se lève, dans cette salle des fêtes, cette salle municipale de Saint-Valery-en-Caux. Je descends quelques marches. Bonjour monsieur, d'abord quel est votre prénom monsieur ?
Lionel.
Où habitez-vous Lionel ?
À Tôtes.
C'est loin Tôtes ?
30 kilomètres à peu près.
Merci de nous avoir rejoint. Quelle est votre réponse ?
Le Pétrichor.
Ah bravo monsieur, oui oui, Pétrichor. T-shirt France Inter pour Lionel. Le pétrichor, l'odeur caractéristique du sol, des terrains, après la pluie. Pétrichor, P-E-T-R-I-C-H-O-R. Et Lou Herbelin à Château-Gontier, en Mayenne, gagne 45 euros. Laurent Liot, Fabien Buissard pour vous, le récepteur radio France Inter, FM et DAB+, et le tout nouveau livre des chroniques de François Morel, intitulé « Ça va aller », coédition de Noël et France Inter. Bonne journée, et pour le spécial jeune, à demain, si vous le voulez bien.